Vous écoutez France Culture. France Culture, il est 14h, l'heure des sciences, du lundi au vendredi. Aujourd'hui, Continent Science par Stéphane Delisgorges.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai choisi pour cette chronique l'écureuil arctique. Son domaine vital s'étend de la Sibérie, l'Alaska, jusqu'au Nord-Canada. Il est le seul donc à être adapté à la situation la plus septentrionale qu'il soit. Son nom, Spermophilus parii. Ce rongeur des frimas les plus extrêmes se réfugie, le mauvais temps venu, dans l'abri de son hibernaculum, son terrier d'hiver. Sa température corporelle peut alors descendre jusqu'à moins degré 9. Mais, curieusement, arrivé à cette limite, il ne gèle pas. Ces écureuils septentrionaux, les Anglais les appellent Siksik, d'un nom d'origine esquimau. Il vient de l'onomatopée de leur cri d'alerte. Sik, sik. Le mauvais temps venu, ils rentrent donc dans leurs hibernacula, dont certains peuvent faire une vingtaine de mètres, et cela pour une période de 7 mois, d'octobre à fin avril. Ces siksiks de quelques 50 cm de haut et d'un poids maximum de 800 grammes ont une nourriture composée de graines. Spermophilus vient du grec qui aime les graines, mais aussi de noix, de bulbes, de champignons, d'insectes et de tant de myrtilles dans les bonnes années que leur bouche en devient toute mauve. Ces siksiks peuvent former de larges colonies composées parfois de 50 membres. Il reste beaucoup d'énigmes à ce comportement d'hibernation. Durant cette époque hivernale, les écureuils connaissent périodiquement, dans leur état de torpeur, un bref réveil de 24 heures. Là, leur température corporelle remonte à son niveau normal, soit 3,7 degrés. Ainsi, ces siksiks, comme les autres mammifères hibernants, éprouvent une curieuse alternance d'états torpides et de sommeil. Ce qui, bien sûr, n'est pas la même chose physiologiquement parlant. Pourquoi ? Certains scientifiques pensent, par exemple, qu'un cerveau froid ne peut pas dormir. Mais comme à l'ordinaire, je laisserai à chacun le soin de tirer la morale de cette histoire naturelle. Jacques Stern, bonjour.
Bonjour.
Alors, indépendamment de la joie que vous avez certainement de recevoir ce prix, cette médaille d'or du CNRS, de but en blanc, je vous demande si, indépendamment de l'honneur qui vous est rendu, vous êtes content aussi parce que ça met un petit peu sur le front public votre discipline.
Ça met sur le front public ma discipline. D'abord, ma discipline au sens large, l'informatique. C'est le premier informaticien qui est récompensé par la médaille d'or du CNRS. Et bien entendu, à l'intérieur de l'informatique, ma discipline au sens strict, si l'on peut dire, c'est-à-dire la cryptologie, la science des messages secrets.
Alors, une première définition courte, Jacques Stern, des messages secrets de la cryptologie. On y reviendra bien sûr dans plus de détails. Mais donc, on peut la définir comment ?
Aujourd'hui, c'est-à-dire à l'ère de l'informatique, on peut la définir comme l'ensemble des techniques qui permettent d'assurer l'intégrité, l'authenticité et la confidentialité des communications.
Donc cette discipline a connu un grand essor à partir de quand dans la période moderne ? Parce qu'on va venir à un petit historique de la chose, parce que c'est quand même passionnant.
Dans la période moderne, la discipline a été d'abord presque motivé par le développement de l'Internet, c'est-à-dire avant même qu'on parle de web. Et bien sûr, dès qu'on a commencé à faire de vraies transactions et de vraies communications sur l'Internet, alors la discipline a été extrêmement sollicitée.
Donc je vous propose de venir à l'histoire. Ça fait bien sûr très longtemps, puisque dans un document qui a été publié lorsque vous avez reçu cette belle médaille, on date au 5e siècle avant Jésus-Christ, un ruban de papyrus, l'Askital, la Lacédémonienne. Alors qu'est-ce ?
l'envie d'écrire de manière secrète, j'imagine que c'est presque contemporain de l'invention de l'écriture. Alors, la cital lacédémonienne, c'est un dispositif où on enroule simplement un papyrus sur un bâton en bois, et donc et on écrit transversalement. Donc, de l'autre côté, pour pouvoir lire ce qui est écrit, eh bien, il faut avoir un bâton exactement de la même taille. C'est évidemment une méthode un peu fruste, mais on peut dire que c'est les débuts de la cryptologie.
Et en tout cas, pratiquement tout le temps, ça a été utilisé, évidemment, pour un roi voulant communiquer à certains de ses espions ou ses ambassadeurs ou certains de ses sujets privilégiés, je suppose, non ?
C'était une science, ou peut-être plutôt un art, et qui était effectivement utilisé dans le domaine diplomatique et dans le domaine militaire. Vous parlez de roi, mais les meilleurs cryptologues du XVe ou du XVIe siècle, on les trouvait à la curie romaine.
Oui. Alors, il y a César, au 1er siècle avant Jésus-Christ, donc il a un système, lui aussi, pour décodage militaire, c'est ça ?
Et il a un système qui nous paraît évidemment extrêmement naïf aujourd'hui, qui consiste à décaler une lettre après l'autre. Mais il semblerait, d'après les historiens, que le but de ce système n'était pas de protéger ses communications militaires, mais ses communications avec ses intendants. César était aussi un homme riche et il ne voulait pas que ça se sache trop, sans doute.
Ouais, les intendants, donc ceux qui s'occupaient de ses grandes fermes ou ses domaines.
À Rome.
Oui, c'est ça. Ensuite, autre date, Al-Kindi, cette fois on est au 9e siècle. Là, cette fois, c'est un savant et un philosophe arabe qui rédige le premier traité, semble-t-il, donc de cryptologie.
C'est quelque chose qu'on a découvert extrêmement récemment. Pendant longtemps, on a imaginé que les premiers traités de cryptologie étaient parus donc à la cour pontificale vers le 14e, des manuscrits. Et puis, il y a une vingtaine d'années, je crois, on a découvert au fond de la grande bibliothèque d'Istanbul le manuscrit de Al-Kindi, environ 850 après Jésus-Christ. Et c'est extraordinaire parce que c'est un vrai cours de cryptographie.
Et là, avec des méthodes évidemment plus sophistiquées, plus complexes que ce qu'on connaissait avant, je suppose.
Or, les méthodes qui sont utilisées par Al-Kindi et qui sont réapparues ensuite à l'Ouest, sans doute à travers la conquête en Espagne, ce sont des méthodes simples, c'est-à-dire les méthodes qu'on appelle substitution-transposition. Substitution, vous remplacez une lettre par une autre, un peu comme le faisait Jules César. Transposition, vous faites un changement de l'ordre des lettres, un peu comme dans les jeux enfantins qui consistent à faire des anagrammes.
Alors ensuite, on trouve un très grand architecte qui s'appelle Alberti, c'est bien ça, hein ?
Alberti, tout à fait.
Et donc, qui lui aussi invente un système. Alors, quel est-il ce système, Jacques Stern ?
Le grand progrès d'Alberti, c'est d'imaginer un système dans lequel il y a une évolution du mécanisme de chiffrement en fonction du texte qui est chiffré. Donc c'est un progrès par rapport à l'art antérieur.
Ça vous a intéressé, on va continuer l'historique, mais vous êtes à l'extrême pointe de l'actualité de cette discipline, la cryptologie. Mais ça vous a intéressé d'en être aussi l'historien ?
Je n'en suis pas véritablement un historien. Il y a avant moi des historiens de la cryptologie. Il y a un excellent livre d'un journaliste et historien américain qui s'appelle David Kahn. Moi, je me suis intéressé à l'histoire de la discipline parce que je pense que les scientifiques, ce ne sont pas des gens qui créent ex nihilo, ce sont des gens qui se rattachent à une tradition plus ou moins ancienne. Et je pense que même dans l'enseignement des sciences, c'est important de savoir d'où viennent les méthodes et les concepts.
Alors cette fois, en avançant, on se retrouve au XVIe avec un mathématicien qui est très connu, qui s'appelle Cardan, mais qui faisait aussi des divinations. C'est un personnage curieux, puisqu'entre autres, il s'était amusé, là il s'est fait très très mal voir, de faire le thème astral du Christ. Et puis aussi, évidemment, il a fait quelques découvertes mathématiques importantes. Et lui aussi a travaillé la cryptologie.
Vous savez, à cette époque-là, la cryptologie ou la cryptographie, c'était un petit peu comme d'autres sciences qu'on qualifie, ou d'autres techniques qu'on qualifierait plutôt d'ésotériques, c'était presque proche de l'alchimie. Toujours est-il qu'on retient de Cardan quelque chose de très précis qu'on appelle la grille de Cardan, et qui est un mécanisme où vous avez une sorte de grille de mots croisés qui vous permet, quand vous savez où sont les cases noires et les cases blanches, de récupérer le texte caché.
Oui, d'ailleurs, on pourrait, par rapport à votre remarque précédente, dire la même chose de Kepler, qui a trouvé la loi des airs, mais qui, en même temps aussi, faisait des thèmes astro. Là encore, ça pouvait être conjoint, très sérieux, scientifiquement, et par ailleurs, il fallait gagner sa croûte.
Oui, Kepler, aussi, on va un petit peu, je crois, auparavant, le Johannes Trithemius, qui est un moine qui a écrit de nombreuses choses, je crois, sur la Kabbale et peut-être même sur la transmutation des métaux en or.
Alors, cette fois, on marche à grands pas, on se retrouve en 1863. Et cette fois, c'est un officier prussien qui s'appelle Friedrich Kaczynski. C'est bien ça. Alors, quelle est sa découverte? Quel est son progrès à lui?
Alors là, on a complètement changé de registre. D'abord, on est dans le domaine de la cryptanalyse. Dans la cryptologie, il y a la défense et l'attaque. La défense, c'est mettre au point des dispositifs qui vous permettent d'envoyer des messages secrets. Et l'attaque, c'est essayer d'accéder à ces messages secrets sans connaître vraiment le détail du dispositif.
Casser le code, en somme.
Casser le code, oui, tout à fait. Donc, pour Kaczynski, c'est une méthode d'attaque qui fait qu'il a laissé son nom dans l'histoire de la cryptologie. C'est une méthode d'attaque statistique et c'est une méthode d'attaque tout à fait remarquable parce que c'est la découverte de ce qu'on appellerait en termes modernes un invariant, qui est simplement la probabilité que deux lettres prises au hasard dans le texte soient égales. Eh bien, si dans un texte clair, bien entendu, vous avez beaucoup de « e », donc la probabilité que deux lettres soient égales, on peut la calculer, on ne va pas le faire maintenant, mais elle est un petit peu exceptionnelle vis-à-vis de quelque chose qui serait complètement au hasard. Ce que Kaczynski a remarqué, c'est que dans certains mécanismes de chiffrement, cet invariant demeurait exceptionnel et que c'était une méthode pour casser le code.
Et elle a été beaucoup utilisée ?
Elle a été certainement utilisée et je ne dirais pas qu'elle est encore utilisée directement, mais elle est à la source d'un certain nombre de méthodes qui sont aujourd'hui utilisées, pas tant pour casser les codes que pour les valider. La question de casser les codes, c'est une question qui relève de l'histoire militaire et diplomatique. Aujourd'hui, on ne cherche pas, au moins nous, dans le domaine de la recherche académique, on n'essaye pas de casser des codes, on essaye plutôt de les passer dans une sorte de crash test, espérant qu'ils résistent.
De les solidifier, de les rendre plus robustes, on peut dire. C'est bien ça, Jacques.
Tout à fait.
Oui. Alors ensuite, pour continuer cette chronologie, parce qu'on apprend tout, pour ceux qui ne se sont jamais penchés sur cette histoire, voilà qu'arrive un linguiste et cryptologue flamand, et qui donc écrit la cryptographie militaire. Et là encore, il y a un certain nombre de principes fondamentaux pour le chiffrement qui sont établis. Il y a une citation, alors là encore, petit portrait de l'homme et de sa méthode et de son travail.
Quand je parle de la cryptographie militaire, dans un exposé, je mentionne que c'est un livre qui a été écrit en 83 et on pourrait croire que c'est 1983 à tel point ce livre est moderne. En fait, c'est 1883. Et qu'est-ce qu'il y a de moderne dans ce livre ? Il y a un certain nombre de règles, et en particulier l'une d'entre elles, qui est quelque chose de tout à fait remarquable et qui est encore d'actualité, qui est la suivante. Le mécanisme de chiffrement doit pouvoir, sans inconvénient, tomber aux mains de l'ennemi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que même si vous récupérez le mécanisme de chiffrement, que ce soit une méthode ou une machine, il doit rester quelque chose de secret. C'est-à-dire qu'il doit y avoir ce que nous appelons, nous, la clé, une combinaison de chiffres ou une phrase secrète ou un mot secret, quelque chose qui est introduit dans le mécanisme cryptographique au moment où vous le mettez en œuvre et qui peut donc être soit retenu, par exemple si c'est une phrase, soit conservé de manière très sûre s'il s'agit d'une combinaison de chiffres qui est trop longue pour qu'on s'en souvienne.
Alors nous voilà en 1919 avec l'apparition d'une machine universellement célèbre et aussi avec celui qui, quelques 20 ans plus tard, arrivera à trouver son secret. Il s'agit d'Alan Turing, avec donc un autre nom associé qui est Kurt Gödel. Là, cette fois, il y a deux brevets qui sont déposés, semble-t-il, pour cette machine qui va équiper l'armée allemande.
C'est pas tout à fait comme ça que ça s'est produit. C'est-à-dire, il y a une coïncidence assez troublante, c'est que il y a plusieurs brevets qui ont été déposés essentiellement la même semaine pour plusieurs machines cryptographiques. Alors évidemment, les historiens ont estimé que c'était la naissance d'une ère nouvelle que moi j'ai appelée l'ère technique. De la cryptologie dans un ouvrage que j'ai publié. La machine Enigma, c'est effectivement quelque chose qui a été développé d'abord pour les besoins civils, ensuite repris pour les besoins de l'armée allemande, et c'est resté dans l'histoire célèbre à cause d'Alan Turing. Je vais y revenir dans un instant. Alan Turing, ça vaut le coup d'en dire un mot, c'est un des scientifiques majeurs, à mon avis, du XXe siècle, et c'est quelqu'un qui a réfléchi, entre autres, dans sa thèse qui a été menée à Cambridge, en Angleterre d'une part, et qui s'est poursuivie à Princeton ensuite. Eh bien, dans sa thèse, il a essentiellement, à une époque où il n'y avait pas de machine informatique, il a inventé le concept de machine, d'ailleurs que nous appelons, nous, informaticiens, machine de Turing.
Eh oui, la machine, la célèbre machine de Turing. Et alors, le ruban qui avance, qui recule, ainsi de suite.
Oui, tout à fait, sauf que ça n'est pas comme ça que les vraies machines se sont ensuite développées, mais Turing en était conscient. Et ce qui est extrêmement étonnant, c'est qu'en 1938, à son retour de Princeton, au lieu d'aller à Cambridge recueillir tous les honneurs qui certainement lui revenaient et entamer une brillante carrière universitaire, eh bien Turing a été recruté par le service du chiffre britannique et au début de la guerre, Turing se trouvait dans un endroit qui s'appelait Bletchley Park où le service du chiffre avait réuni pas mal de mathématiciens, pas mal de linguistes, avec un seul but qui était de briser les codes allemands, notamment ceux qui étaient chiffrés par la machine Enigma.
Alors on peut rappeler que cette machine équipait tous les sous-marins allemands, que ça va avoir une importance cruciale pour le déroulement de la guerre. On peut peut-être rappeler d'un mot aussi que le chemin est un petit peu tortueux parce que ce sont des gens du contre-espionnage polonais qui vont donner les linéaments de la solution et c'est le génie de Turing que d'avoir cassé le code. Alors, il y a un élément extrêmement important, c'est que quand on sait le nombre de pertes qu'avaient les alliés, aussi bien de bateaux militaires que de bateaux de ravitaillement venant d'Amérique en particulier, dès que le code gouvernant la machine Enigma va être trouvé, il va y avoir une chute, mais vous allez peut-être avoir un chiffre à nous dire, Jacques Stern, mais drastique des attaques des U-boats.
Oui, il ne faut pas sous-estimer effectivement le rôle des mathématiciens polonais il s'agit d'un groupe de trois jeunes et extrêmement brillants mathématiciens polonais qui avaient fait un peu le même choix que Turing, c'est-à-dire aller travailler sur les chiffres au lieu de faire une carrière universitaire, et qui ont effectivement créé une première méthode d'attaque qu'ils ont communiquée aux Français et aux Britanniques, et qui ont déjà eu l'idée, comme il y avait énormément de calculs à faire, que cette attaque soit menée avec des machines dédiées. Ils appelaient ça les bombes parce que ça faisait tic-tac. Le problème, c'est que le mécanisme de l'Enigma a varié. Il y a eu plusieurs variations, les unes dans la méthode de mise à jour des clés et les autres, notamment pour l'Enigma des sous-marins, par l'adjonction de rotors, c'était des machines avec des rotors, des dispositifs électromécaniques, par l'adjonction de rotors. Donc c'est devenu beaucoup plus compliqué et c'est Turing et les autres mathématiciens de Bletchley qui effectivement sont venus à bout de cette nouvelle énigme. Et le résultat, moi je ne suis pas historien, je ne sais pas trop bien si on a véritablement écourté la fin du conflit de plusieurs mois, voire un an, comme on le dit, mais je suis convaincu que la cryptologie, les travaux de Turing ont effectivement joué un rôle dans la victoire des Alliés.
D'ailleurs, on peut remarquer donc évidemment l'implication d'un travail mathématique extrêmement pointu, d'un travail cryptologique dans la conduite de la guerre. On peut rajouter, mais ça n'est pas tout à fait du même ordre, mais que les Alliés disposaient aussi de la pénicilline et que ça a eu un impact absolument considérable puisqu'on savait soigner les plaies infectées, ce que, bien sûr, les Allemands ne disposaient pas.
Mais si c'est la victoire de l'intelligence,
oui,
c'est parfait.
C'est ce que je voulais dire. Pour continuer le portrait de ce scientifique Alan Turing, qui à vos yeux et à juste titre est l'un des grands grands savants du XXe siècle, on peut voir qu'ensuite même il s'est préoccupé de choses encore très différentes, puisque il s'est posé la question de savoir si on pouvait trouver une réponse à pourquoi les zèbres ont-ils des zébrures, ou pourquoi les léopards ont-ils des taches, et comment la chose est organisée. Et il a proposé une sorte de conjecture qu'on appelle les morphogènes et qui est encore dans l'actualité. Donc on voit que sa sagacité et que les terrains d'emploi de son intelligence ont été dans beaucoup, beaucoup de secteurs.
Oui, effectivement, Turing est quelqu'un qui réfléchissait énormément à ce qu'il faisait, et notamment, et je ne suis pas surpris de ce dont on parle, il était très intéressé par les questions, à cause de sa formation naturellement et de ses recherches, par les questions qui opposaient le déterminisme à ce qui est probabiliste. Donc, questions qui peuvent être scientifiques, mais qui peuvent être évidemment, c'est pas mon domaine, mais ça existe bien sûr, qui peuvent être de nature philosophique. Et c'est quelque chose qui l'a motivé, je crois, tout au long de sa carrière. Et les rayures des zèbres, ben, finalement, est-ce que c'est déterministe ou est-ce que c'est probabiliste? Donc, tout à fait naturel qu'il se soit intéressé à cette question.
Oui. Alors, il y a aussi des choses piquantes et des choses extrêmement douloureuses dans son itinéraire. Il était champion du 1500 mètres, donc c'était un coureur à pied remarquable. Il avait la particularité, dit-on, ça c'est peut-être une sorte de singularité de savant, un peu professeur Nimbus, mais il avait cloué une pendule dans son bureau pendant tout le temps où il travaillait à la résolution d'Enigma. Et puis alors la partie douloureuse, c'est que Alan Turing était homosexuel et que, en particulier pour les Anglais, c'est une sorte de martyr de la cause gay, puisque à un moment, les services du contre-espionnage, après un procès très très victorien, on peut dire, l'ont condamné. Et puis il y a un autre détail, Jacques Stern, que vous connaissez bien, et qui a été donc un comportement très dur de la part de l'Intelligence Service anglais.
Oui, c'est le signe que les scientifiques reçoivent parfois de grandes distinctions et parfois ne reçoivent pas des institutions le respect qu'ils méritent. Turing a été victime de ce qu'on appellerait aujourd'hui une sorte de complot juridico-médiatique On n'imagine pas aujourd'hui qu'on puisse s'acharner d'une telle façon contre quelqu'un à cause de ses préférences.
Avec, encore une fois, des violences, c'est-à-dire l'obligation de prendre des hormones dits masculins. Donc là, on voit une sorte de contrainte folle. Et puis, je vous laisse dire comment il a fini ses jours, qui sont vraiment...
Turing était très déprimé. Et une des raisons de sa dépression, c'était notamment qu'on lui avait retiré, à cause de ce dont on vient de parler, son habilitation au secret. Il n'a pas supporté ça, et l'ensemble de la situation, sans doute. Et donc, il s'est suicidé de façon complètement tragique, c'est-à-dire en croquant une pomme empoisonnée.
Oui, au cyanure, semble-t-il.
Au cyanure.
Oui. Et oui, donc, en tout cas, l'un de ses biographes a monté une pièce, pour finir, qui a été jouée à Londres et qui a eu beaucoup, beaucoup de succès, qui racontait quand même cette histoire tragique, en même temps, l'histoire tragique d'Alan Turing. Alors, je vous propose maintenant de jouer au jeu de la cryptologie en 10 mots-clés. Donc là, j'ai une liste sous les yeux, mais qui est classée par ordre alphabétique. Ça commence par clé. Mais vous commenceriez plutôt du point de vue de la raison ou du point de vue de la popularisation de votre discipline, par lequel des mots qui serait le plus important. Cryptographie asymétrique, cryptographie, cryptanalyse. Bon, on a vu que cryptanalyse, c'est la volonté de casser le code.
Si on cherche à comprendre pourquoi aujourd'hui il y a une communauté scientifique dans le milieu académique, eh bien, on rencontre immédiatement le concept de cryptographie asymétrique, ou comme on dit également, cryptographie à clé publique. C'est le moment charnière d'une grande découverte et aussi d'un grand changement, c'est-à-dire que la cryptologie, qui était d'essence duale et peut-être plus militaire que civile, a pratiquement perdu ce caractère dual et est devenue une science civile, développée de manière ouverte dans le milieu académique. Et donc, ça, c'est une date précise, c'est 1976, et c'est le mot cryptologie à clé publique.
Alors, autrement, est-ce qu'on peut quand même définir clé, simplement clé à nouveau, puisque vous avez utilisé dans clé publique ce terme ?
Et on peut définir clé. À partir du moment où on a bien compris, et ça s'est fait au XIXe siècle, qu'il fallait distinguer le mécanisme de chiffrement de quelque chose d'autre qui devait rester secret et court, maniable, eh bien, qui pouvait être une suite de chiffres, un mot, comme dans l'opéra Le Bal Masqué, muerte, la mort. Donc, à partir de ce moment-là, on a compris qu'il y avait ce concept de clé, donc qui est une donnée numérique ou littérale secrète qui est conservée par le ou les participants à un échange cryptographique.
Alors, évidemment, ensuite, il y a une clé publique et puis, bien sûr, il y a une clé secrète. Donc, c'est la partie qui est la partie confidentielle, on peut dire, entre un émetteur et un receveur, c'est bien ça.
Alors, dans le mécanisme traditionnel, il y avait uniquement une clé secrète. C'est-à-dire que le ou les participants à un échange de messages avaient la même clé et l'émetteur utilisait la clé pour chiffrer, c'est-à-dire transformer quelque chose que tout le monde comprend, par exemple un texte dans une langue donnée, en français ou en anglais, en quelque chose que personne ne comprend, quelque chose que, si on le voit, on estime que c'est totalement inintelligible. Et puis, à l'arrivée, le récepteur, avec la même clé, prenait ce charabia incompréhensible à qui que ce soit inintelligible, et avec donc cette même clé secrète, le transformait en le texte clair d'origine. Et de cette façon, on établissait une communication secrète. Inconvénient, bien entendu, il fallait au départ s'être entendu sur cette clé secrète, c'est ce qu'on appelle établir une convention secrète, et de préférence, il fallait se rencontrer ou bien disposer d'un canal extrêmement sécurisé pour échanger ce point de départ, cette clé. La grande invention de 1976, c'est d'imaginer que l'on puisse procéder à l'établissement d'une convention secrète sans s'être rencontré auparavant. Alors ça, c'est un défi conceptuel gigantesque. Et pour arriver à répondre à ce défi, il y a une solution qui aujourd'hui nous paraît complètement simple, qui est de dire « mais le rôle des deux participants n'est pas symétrique ». Celui qui cache, qui utilise la clé, eh bien, il n'a pas de raison de devoir immédiatement récupérer son message. Donc, au lieu d'utiliser une clé, il utilise l'équivalent d'un cadenas, quelque chose que l'on ferme sans avoir recours à quoi que ce soit. Et c'est seulement à l'arrivée que celui qui veut récupérer le message a besoin d'une clé secrète. Donc, dissymétrie, clé publique pour l'émetteur, clé secrète pour le destinataire. Mais quand on parle de cadenas, évidemment, c'est une image qui est simple et sympathique, si on peut dire. Mais le réaliser mathématiquement, c'est s'attaquer à un paradoxe et c'est un tour de force.
Je vous propose, Jacques Stern, de prendre un cas concret et de nous dire qu'est-ce qui relève de votre cryptologie. On n'a pas dit d'ailleurs que cryptos, évidemment, ça veut dire caché. Donc, avec le mot logos réuni, ben, ça veut dire la science du secret, hein, avec cette étymologie grecque. Alors, lorsque je me rends sur le site de ma banque et que je veux consulter l'état de mes comptes, qu'est-ce qui se passe? Donc, je vais, dans un premier temps, sur le site internet. Là, il n'y a pas vraiment de souci. Et ensuite, on va me demander, évidemment, de rentrer un certain nombre d'informations.
Vous allez sur le site internet, il y a déjà un souci. Comment est-ce que vous savez que vous êtes bien sur le site internet de votre banque et pas sur un site pirate? Et il y a toute cette problématique actuelle qu'on appelle le phishing, hameçonnage, si on veut parler français, qui consiste pour un faussaire à vous envoyer un mail en disant « cliquez, il faut que vous alliez mettre à jour vos données sur le site de la banque ». Il ne faut surtout pas faire ça. Mais supposons que vous soyez bien sur votre bonne banque. Alors, il y a un problème d'authenticité. La banque doit être sûre que c'est vous qui allez faire l'opération et pas quelqu'un d'autre. Donc, elle vous demande en général un minimum de garantie qui peut se composer d'un petit code secret. Je dis petit parce qu'on n'imagine pas de retenir plus de 4 à 6 chiffres. Mais tout ça ne va pas être suffisant parce que après, vous souhaitez que la suite de votre conversation avec la banque, d'abord, soit confidentielle. Vous n'avez pas envie que le voisin du dessus sache ce que vous êtes en train de faire. Et ensuite, vous souhaitez qu'elle se poursuive sur un mode authentifié, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas quelqu'un qui, tout de suite après, vous remplace sur la ligne et récupère l'argent que vous êtes en train de manipuler. Et donc là, on a recours à la cryptologie. Et en plus, bien entendu, vous n'avez pas de secret. Et si vous en aviez un, ça se saurait. Donc, et ça se saurait parce qu'on vous aurait donné un dispositif, certaines banques le font peut-être. Et donc c'est forcément de la cryptologie asymétrique. Donc ce qui se passe, sans que vous le sachiez d'ailleurs, c'est que le serveur de la banque a, lui, une clé secrète, qu'il vous communique la clé publique correspondante, qu'elle est authentifiée dans le meilleur des cas ou qu'elle ne l'est pas, et que vous lui envoyez en fait des messages par l'intermédiaire d'une convention secrète qui s'établit dynamiquement quand vous commencez à faire vos opérations à l'aide de la cryptologie asymétrique.
Donc, en tout cas, pour ce qui me concerne, donc un numéro qui est mon numéro client, et ensuite arrive donc le code secret. Il est formé de 6 éléments. Alors, il y a un petit détail, mais on peut peut-être le comprendre. Beaucoup, je suppose, en tout cas, comme moi, peuvent enregistrer, parce qu'autrement, c'est fastidieux de retaper chaque fois ces mots de passe, je pense, pour aller sur une revue scientifique. Donc, là, il y a un dispositif qui permet de mettre en mémoire ce qu'on appelle le logging. Mais là, pas possible. C'est-à-dire qu'il faut renouveler l'opération à chaque fois et il n'y a pas d'empreinte. C'est-à-dire qu'il est impossible de mettre en mémoire les informations que je donne à la banque pour rentrer, pour consulter mes comptes. Ça, c'est une précaution supplémentaire.
C'est une petite précaution supplémentaire.
Effectivement, on va tout apprendre,
il serait imprudent que vous laissiez le système tout seul avoir accès à vos comptes, ce qui se passerait si le mot de passe était préenregistré, parce que ça voudrait dire que au moment où vous allez déjeuner, par exemple, si vous faites ça de votre lieu de travail, eh bien, quelqu'un pourrait rentrer dans votre bureau et si vous n'avez pas pris soin de fermer, sinon la machine, du moins la session, eh bien, il pourrait faire vos opérations bancaires. Alors, c'est une précaution, mais dans l'avenir, ça ne suffira pas, bien entendu, parce que tout ça n'est pas véritablement cryptographique. 4 chiffres, 6 chiffres, c'est quelque chose qui est très court, et par ailleurs, c'est quelque chose qu'on peut vous voir faire si quelqu'un est amicalement derrière votre épaule ou si simplement un programme espion est moins amicalement sur votre ordinateur.
Donc, terrain mouvant, alors, à tous les
dans l'avenir, on va utiliser de vraies méthodes cryptographiques, on y réfléchit, pour sécuriser ce qu'on appelle le côté client. Le côté serveur est mieux sécurisé puisque du côté de votre banque, ils ont vraiment une clé secrète qui correspond à la clé publique que vous utilisez sans le savoir pour communiquer avec eux. Mais du côté client, va falloir certainement avoir recours à des méthodes cryptographiques plus évoluées.
Dernière question dans cette partie-là de notre entretien. Est-ce que ça correspond à une signature d'authenticité, le processus qu'on vient de décrire ?
Ça correspond à un mécanisme d'authenticité parce que vous vous authentifiez par votre mot de passe qui est composé de 4 ou 6 chiffres, mais ça n'est pas une signature. On réserve le terme de signature à quelque chose où vous pouvez prouver que c'est arrivé. Ce qu'on appelle la propriété de non-répudiation. Ça devient opposable au tiers. Vous pouvez dire, c'est bien arrivé, je me suis bien connecté pour telle et telle raison. Et là, ce n'est pas le cas parce que ce nombre, vous le connaissez, mais votre banque, par exemple, le connaît aussi. Donc, vous n'êtes pas le seul à pouvoir réaliser ce mécanisme d'authentification. Et si vous dites « je l'ai fait à 10h30 », peut-être l'avez-vous fait à 10h20 ou à 10h40 et vous ne pouvez pas prouver que vous l'avez fait à 10h20 ou à 10h40. Vous pouvez peut-être le prouver avec l'aide de votre banque, mais vous aurez peut-être un peu de mal à le prouver. Donc vous n'avez pas la fonctionnalité qu'on appelle « non-répudiation ».
Jacques Stern, qu'est-ce que vous désignez par algorithme dans cette discipline ? C'est le même terme qu'ailleurs en mathématiques ?
Oui, certainement. L'algorithme, c'est ce qui se trouve entre la formule mathématique et l'exécution d'un programme. Donc, c'est la transformation de quelque chose de mathématique en une suite d'instructions qui peut être exécuté par une machine.
Et de façon, encore une fois, automatique, donc. Alors, absolument. Donc, l'un des fronts de votre recherche, c'est de développer des algorithmes de plus en plus subtils, compliqués. Est-ce que c'est ça, Jacques Stern ?
En cryptologie, effectivement, et spécialement depuis l'apparition de la cryptologie à clé publique, eh bien, la communauté scientifique, elle a pour rôle de concevoir des algorithmes cryptographiques, c'est-à-dire des algorithmes qui vont assurer le secret, et puis évidemment d'éprouver la solidité de ces algorithmes et de les analyser.
Et autrement, quelles sont les mathématiques mobilisées? Est-ce que vous travaillez en théorie des nombres, par exemple? Quelles sont les mathématiques que vous faites venir et que vous convoquez donc pour faire avancer la cryptologie?
Dans le domaine de la cryptologie, et d'ailleurs en général dans le domaine de l'informatique, on utilise énormément de mathématiques. Et a priori, si des étudiants me demandent quelles mathématiques dois-je apprendre pour pouvoir faire la cryptologie, je leur dis qu'il faut savoir un peu toutes les mathématiques. Si on parle de cryptanalyse, eh bien on va utiliser des méthodes statistiques. Si maintenant on parle de cryptologie à clé publique, et notamment des algorithmes qui ont été inventés il y a une trentaine d'années, lorsque cette spécialité, ce paradigme, si on peut dire, cryptologie à clé publique est né, eh bien là, on a recours à la théorie des nombres.
Alors, un mot sur cette théorie des nombres. Est-ce que vous mobilisez les nombres premiers? Parce qu'on est toujours très étonné de savoir. Donc, vous utilisez les nombres premiers, et puis cette course effrénée à obtenir le plus grand des nombres premiers.
En cryptographie, il faut arriver à créer une opération irréversible. Irréversible sans une donnée secrète. Et il y a une opération irréversible extrêmement simple dans la théorie des nombres, mais dans la théorie des nombres la plus ancienne, c'est l'opération de multiplication. Alors vous parliez de nombre premier. Un nombre premier, c'est un nombre qui n'est divisible que par lui-même et par 1, bien sûr.
Oui, par l'unité.
Donc 2, 3, 5, 7, etc. Maintenant, vous en prenez 2, 5 et 7, vous les multipliez entre eux, ça fait 35. Et je vous dis, maintenant, faites l'opération inverse. Alors, vous allez me dire 35 égale 5 fois 7. Ça, c'est très facile, mais si vous faites l'opération avec deux nombres premiers de 100 chiffres, et que vous les multipliez, vous obtenez un nombre qui a environ 200 chiffres, et là, ça devient presque impossible. Enfin, presque impossible. Et il y a un record, c'est comme la course à pied, et le record, c'est à peu près ça, c'est 200 chiffres. Cela veut dire que si maintenant je vous donne deux nombres premiers de 150 chiffres chacun, et que j'ai multiplié, personne, ni vous, ni moi, ni personne actuellement, n'est en mesure
De faire l'opération inverse. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui est mobilisé comment, alors, là encore?
Eh bien, c'est quelque chose qui est à la base de la sécurité d'un algorithme qui a été inventé au tout début de la cryptologie à clé publique et qui s'appelle l'algorithme RSA.
Oui.
La cryptologie à clé publique a été inventée par deux Américains qui s'appellent Whitfield Diffie et Marty Hellman. Donc ils ont bien compris la cryptologie à clé publique, ils ont bien compris que ça allait donner également le concept de signature, mais quand il s'est agi de donner un exemple, de dire comment on va faire, eh bien là ils n'ont pas trouvé. Et ces trois chercheurs qui, deux ans après, ont réussi à aller au-delà, c'est-à-dire à donner un véritable exemple. Ces trois chercheurs s'appellent Rives, Shamir et Adelman. Si vous prenez leurs initiales, ça fait RSA et c'est le premier et le principal algorithme de chiffrement à clé publique. Et cet algorithme, il a essentiellement comme clé publique un nombre qui a été obtenu comme le produit de deux nombres premiers et comme clé secrète les deux nombres premiers dont on est parti pour faire le produit.
Alors quand on lit ce qui a été présenté lors de la remise de votre médaille d'or, Jacques Stern, donc on parle d'un résultat que vous avez obtenu en 2000, un vent de panique a soufflé chez les utilisateurs devant une rumeur selon laquelle la preuve donc d'une sécurité prouvée était fausse. Et là, vous avez apporté une preuve correcte.
Oui, alors si on prend ce fameux RSA, le RSA, c'est une formule mathématique. Et après, on la décline en un algorithme. Mais en général, on va plus loin. Parce que l'Internet, ce n'est pas des formules mathématiques qui se promènent. Ce sont des 0 et des 1. Et on peut dire qu'ils circulent dans des sortes de tuyaux virtuels. Et ces tuyaux, ils ont des dimensions. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire passer n'importe quoi. Donc, réaliser le RSA, par exemple pour les applications de l'Internet, eh bien, vous avez à spécifier un algorithme qui non seulement fait la formule mathématique, mais aussi la fait avec certains dimensionnements. Et donc, quand vous passez de la formule pure à la formule avec dimensionnement, avec tuyaux, etc., eh bien vous êtes susceptible de faire des fautes. Donc il faut réussir, si possible, à prouver qu'on n'a pas fait de faute dans ce passage. Eh bien, il y avait une norme qui avait été proposée. Cette norme, elle est toujours d'ailleurs extrêmement utilisée. Et on avait dit, cette norme, elle est correcte parce que, justement, il n'y a pas de faute dans le passage de la formule mathématique à la norme. Et quelqu'un, ça n'est pas moi, en 2000, a dit, oui, c'est très bien, il n'y a peut-être pas de faute, mais la preuve, dans la preuve que vous avez faite, là, il y a une faute de maths. Et donc, l'algorithme n'est pas cassé. Mais la preuve, aujourd'hui, on veut absolument qu'il y ait des preuves de sécurité. On ne peut pas se permettre d'en rester à une simple sécurité heuristique. Cette preuve, elle est fausse. Et nous avons travaillé d'arrache-pied pour restaurer cette preuve. Nous étions en contact, on travaillait par courrier électronique, nous étions en contact avec nos collègues japonais qui travaillaient sur le même sujet. Et nous avons pu, en quelques mois, restaurer la preuve et tout le monde en a été extrêmement content.
Jacques Stern, dernière question, courte, réponse courte. Je suppose qu'il vous reste encore beaucoup de travail sur la planche, non ? Vous allez pas chômer encore.
Hein ? Vous savez, la cryptologie, moi je parle d'ubiquité de la cryptologie. La cryptologie est partout. On a parlé des cartes bancaires, mais on peut parler du téléphone portable, ouais. On peut parler de la protection des données personnelles. Et c'est une vraie question de confiance et presque de liberté individuelle aujourd'hui.
Je vous remercie, Jacques Stern. Bonjour Ariane Poulanzas.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Bonjour Azar Kaladbari.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Alors on va ouvrir immédiatement l'espace ou le temps des brèves. C'est vous qui commencez, Azar ?
Oui, avec une actualité qui porte sur la dynamique de l'univers. Alors, comme vous le savez, vaste sujet, qui est un domaine en totale effervescence, puisque depuis 1998, il y a une énigme terrible pour les cosmologistes, c'est que 70% de l'univers, du contenu énergétique de l'univers, est sous forme d'une énergie sombre dont la nature est totalement mystérieuse.
Alors, pas d'ambiguïté, puisque les mots peuvent prêter à confusion, il ne s'agit pas de la matière noire.
Tout à fait, ce n'est pas de la matière noire.
Voilà, pour lequel le neutrino possiblement serait un candidat. Voilà. Il s'agit de l'énergie noire.
Voilà. Alors, cette énergie noire qui mène quand même la dynamique de l'univers, donc les chercheurs se demandent de quoi il s'agit, quelle est sa vraie nature. Il y a des résultats concernant cette énergie noire grâce au télescope spatial Hubble, qui a observé 24 explosions d'étoiles et qui a vu qu'il y a 9 milliards d'années déjà, cette énergie noire opérait et donnait un coup d'accélération à l'expansion de l'univers. Parce que, voilà, son effet est totalement subtil, c'est-à-dire que non seulement l'univers est en expansion, ce que l'on sait bien sûr depuis Hubble, depuis les observations de l'homme Hubble.
Lui-même, le boxeur.
Voilà. Eh bien, cette expansion donc, qui date du Big Bang et qui est contraint et qui s'oppose à la gravité, à la force de la gravité, eh bien, cette expansion, on l'a su en 98, donc c'est très peu de temps, il y a très peu de temps, est en accélération, c'est-à-dire l'univers se délite et se délite de plus en plus vite. Et donc, quelle est la force qui mène cette action?
Eh oui,
bien, ça, on l'ignore totalement. Oui. On pense que c'est une force répulsive qui s'oppose à la gravité et qui mène le monde ainsi dans une expansion accélérée. Et dernier résultat, donc, cette force existait déjà il y a 9 milliards d'années.
Ce qui est relativement tôt dans l'histoire de l'univers.
Voilà, ce qui 14, est relativement 9
milliards d'années,
tôt.
Apparaît à 9 milliards d'années cette énergie noire dont vous parlez, Hazar Kalanbari. Donc elle est là très tôt, d'une certaine façon.
Voilà, elle est là très tôt.
Toute proportion gardée.
Autour de quelques milliards d'années plus tard, en fait, déjà, c'est elle qui mène le jeu et c'est elle qui domine la force attractive de la matière.
Alors, là encore, dossier à suivre, parce que, évidemment, il faut encore plus et mieux comprendre quelle est l'énergie, enfin, quel est ce type d'énergie, quelles sont ses caractéristiques propres.
Dossier à suivre, parce qu'en fait, c'est vraiment le sujet de recherche, disons, des prochaines décennies en astrophysique.
Et en cosmologie, bien sûr.
Voilà.
Ariane Poulanzas, on change peut-être pas de monde, mais on change de thème.
On change de thème, on revient sur Terre. On revient sur Terre, on va dans le Bronx et on va dans un zoo où il y a en particulier des éléphants. Et là, les chercheurs ont montré que les éléphants se reconnaissaient dans la glace. Alors, est-ce que vous savez, Stéphane, comment on fait passer ce test aux animaux de la reconnaissance de soi?
Oui, alors, bien sûr, je ne veux pas vous manger l'herbe d'éléphant, l'herbe à éléphant sous les pieds, oui, mais expliquez.
Alors, on leur inscrit une trace, en l'occurrence une croix au-dessus de l'œil, au-dessus de l'arcade sourcilière. Et les animaux qui se reconnaissent dans le miroir utilisent une partie de leur corps, là en l'occurrence c'est la trompe, pour essayer d'effacer cette trace.
Alors, mais c'est du scotch, semble-t-il. C'est scotché.
Assez scotché, oui. Ça, alors, on a essayé ce test-là, on l'a fait dans les années 80 avec les dauphins, car aujourd'hui, il y a trois espèces animales qui ont passé ce test qu'on appelle le test de la reconnaissance de soi. C'est dire si on considère que ce test en dit beaucoup sur la conscience des animaux.
Alors, les trois capacité espèces, d'intelligence, on peut dire
la
aussi.
La capacité d'intelligence.
L'équipement mental, oui.
Tout à fait. C'est-à-dire que au XVIIe siècle, on se souvient très bien de ce que disait Descartes, sa théorie des animaux-machines, où les animaux n'avaient tout simplement pas de conscience. Là, de plus en plus, évidemment, on s'aperçoit que c'est une question de degré, que les espèces animales ont évidemment une certaine forme de conscience. Et ce test de la reconnaissance de soi fait partie des éléments qu'on utilise pour tester l'intelligence des animaux. Et on considère qu'il n'y a que les espèces supérieures intellectuellement et qui sont capables de comportements sociaux et notamment d'empathie qui savent se reconnaître dans le miroir. Alors jusque-là, il y avait les chimpanzés, il y avait aussi les dauphins et maintenant il y a les éléphants.
Eh oui, alors on ne va pas développer aujourd'hui parce que Hazar Kalanbari disait que, mais c'est une information absolument fabuleuse, c'est que Hazar Kalanbari disait, mais on développera avec de vrais détails, des confirmations, mais que maintenant ce test de la vision, ce test du regard sur soi, avait été parfaitement rempli par des automates, des robots.
Par des robots, oui, ouais. Grâce au développement en fait de l'intelligence artificielle et puis des tests de reconnaissance de robots, de reconnaissance de soi, ouais. Dans un miroir.
C'est assez fascinant.
Et ce qui est très étonnant, c'est que avant qu'on fasse l'expérience sur les éléphants, on supposait que les éléphants puissent passer ce test positivement, précisément parce qu'on avait repéré chez eux des comportements sociaux et des comportements d'empathie très importants. Alors reste à savoir maintenant si les robots qui vont être capables de se reconnaître dans le miroir vont être capables d'empathie et de comportements sociaux.
Et de vivre
sociaux.
En société.
La suite le dira.
Ouais, voilà. Le bisou du robot, ça alors c'est de la science-fiction quoi. Alors ensuite... Est-ce qu'on reste encore dans l'espace et le temps des brèves ou est-ce qu'on passe aux ouvrages écrits?
On va parler d'un livre qui s'appelle, d'un livre important, qui s'appelle « Les scientifiques entre pouvoir et savoir ». Donc l'auteur est Jean-Jacques Salomon, c'est édité chez Albin Michel. Alors, c'est un livre qui évoque la responsabilité des scientifiques, leur responsabilité morale, leur responsabilité éthique à travers leur recherche, la finalité de cette recherche. Et il y a un tournant très important que Jean-Jacques Salomon appelle en fait la découverte du péché. Ce tournant se situe... pendant la Seconde Guerre mondiale, et c'est dans la fabrication de la bombe. Donc c'est le projet Manhattan qui a abouti, on le sait, donc à la fabrication de la bombe d'Hiroshima et de Nagasaki. Ce projet Manhattan, en fait, c'est marque la première fois où les scientifiques sont rassemblés pour développer un projet qui est directement lié à une arme de cette manière.
Oui, et en plus, selon le module de la Big Science, avec un général extrêmement sévère qui organise tous ces intellectuels, ces grands physiciens, pour que, de façon quasiment industrielle, cette bombe soit construite. Ariane Poulanzas, autre commentaire sur le livre de Salomon?
Alors, c'est un livre qui a... un intérêt pédagogique extrême, qui est aussi très, très engagé au niveau de la position. C'est-à-dire que Jean-Jacques Salomon considère que les scientifiques n'ont pas à se décharger de toute responsabilité politique, n'ont pas, c'est-à-dire ne doivent pas le faire, et surtout, dans les faits, ne le peuvent pas. C'est-à-dire qu'il y a une intrication extrêmement serrée entre le domaine de la science et le domaine de la politique. Ce qu'il faut voir, c'est que ce livre de Jean-Jacques Salomon est d'une part très pessimiste, d'autre part, quand même, hasard, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pas extrêmement nouveau. Il n'y a pas de thèse tout à fait nouvelle. Toute la partie historique est extrêmement claire et assez précise, mais finalement avec rien de très nouveau.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de proposition, de solution proposée justement pour relever ce défi entre la responsabilité scientifique et l'éthique. Et finalement, une petite proposition très timide, c'est la dissidence, puisqu'il cite l'exemple de Sakharov. C'est un peu l'éloge de la dissidence. Mais au niveau organisationnel, au niveau institutionnel, il n'y a pas d'échappatoire pour ces scientifiques qui sont confrontés, d'une part, à leur euphorie des résultats de recherche, et d'autre part, à la finalité de ces recherches-là.
On a une situation d'ailleurs qui est curieuse parce que l'un des grands promoteurs, évidemment, c'est Oppenheimer concernant la bombe A, qui d'ailleurs disait qu'il avait accepté de construire la bombe A parce qu'il avait peur des nazis. Et ensuite, celui qui sera le promoteur de la bombe H est Edward Teller, juif hongrois, et qui lui dira qu'il a été promoteur de cette bombe H parce qu'il avait peur des soviétiques.
Voilà. Bien sûr, les raisons sont extrêmement variées. Et en fait, il y a aussi un autre petit détail, c'est que finalement, cette bombe a été aussi mise en œuvre pour montrer au Congrès pourquoi ils ont voté toute cette recherche-là.
Alors rapidement, encore une fois, le titre.
C'est donc « Les scientifiques entre pouvoir et savoir » de Jean-Jacques Salomon chez Albin Michel.
En tout cas, une antidote contre le scientisme et le positivisme.
C'était Continent Science. Merci bien sûr de votre attention et de votre fidélité. Jean-Frédéric, Catherine Madure, Catherine Denet, Gilles Mardi-Rossian, Stéphane Delis-Georges. Si vous voulez nous écrire ou si vous voulez réécouter cette émission, n'importe où, n'importe quand, reportez-vous au site internet franceculture.com, émission Continent Science. Et Continent Science est aussi balado-diffusé. Vous avez donc la possibilité de nous enregistrer sur votre baladeur pour une écoute d'une plus grande liberté encore.